Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Expondi Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspirée, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Dans cet épisode spécial, j'ai le plaisir de vous inviter à une conversation inspirante que j'ai eue avec mes amies Laurane et Lana. Toutes les trois, nous partageons un parcours commun. Diagnostiquées avec une spondylarthrite ankylosante, nous avons réussi à retrouver la santé et vivons aujourd'hui sans symptômes, grâce à une approche naturelle et intégrative. Nous allons vous raconter nos histoires personnelles, les obstacles que nous avons surmontés et les clés qui nous ont guidés vers la rémission. Notre objectif est de vous offrir de l'espoir, des conseils pratiques et de vous montrer que vivre pleinement avec une spondylarthrite ankylosante est possible.
Aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est « Conversations inspirantes de spondywarrior ». Je suis ici et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Lepeinteur et Lana Buettner. Petite présentation donc pour Caroline qui est naturopathe. Elle est autrice aussi de deux livres maintenant. Le premier qui s'intitule « Mieux vivre avec une maladie inflammatoire au naturel » et « Mon cahier anti-inflammatoire ». Caroline vit à Albi dans le Tarn et elle est maman de deux enfants. Pour Lana, elle est coach de santé en médecine fonctionnelle et coach EIP, comme moi d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle a reçu le diagnostic de SPA en 2015. Elle vit en Allemagne, à Munich, mais elle voit des personnes partout dans le monde, notamment en France. Elle est également sportive de haut niveau et joue au paddle avec, pour l'équipe nationale allemande. Et pour ma part, j'exerce en tant que nutrithérapeute et coach EIP. J'habite aux États-Unis, en Californie. Je suis maman de deux enfants et je suis absolument passionnée par tout ce qui est santé intestinale, santé immunitaire et d'aider les personnes qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais, moi, il y a 7-8 ans maintenant. On se considère comme des spondy warriors parce qu'on est aujourd'hui toutes les trois en rémission et on vit vraiment des vies pleines à la suite d'un combat et à la suite de ce diagnostic de spondylarthrite. On est trois à avoir pris des chemins différents, mais au final, à avoir réussi à être, on va dire, auteur de notre santé et de reprendre un petit peu notre santé en main. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de nous. Donc peut-être qu'on peut commencer par raconter nos histoires personnelles, nos histoires de maladie. Si tu veux commencer, Lana, peut-être raconte-nous vraiment la partie où, quand tu as commencé à avoir des problèmes de santé, à pas trop comprendre ce qui se passait, le diagnostic et comment tu as géré ça à ce moment-là.
Oui, avec plaisir. Donc pour moi, tout a commencé en 2012. J'étais aux États-Unis, je faisais un sport-études. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des douleurs au dos, au bas du dos, au sacrum. J'avais des problèmes de digestion, j'étais toujours fatiguée, enfin, j'avais pas vraiment une énergie de quelqu'un qui fait beaucoup de sport et qui a 22 ans. Et donc, on pensait que c'était lié à tout le sport que je faisais. Donc, ils m'ont un peu vue comme quelqu'un qui a un problème par trop de sport finalement. Je fais beaucoup de tests, beaucoup de traitements différents et ça n'a pas trop aidé. Et quand j'avais fini les études, donc 3 ans plus tard, c'est là qu'on m'a recommandé d'aller voir un rhumatologue. Et c'est là que j'ai reçu le diagnostic. Donc, j'avais le gène HLA-B27. J'avais fait le IRM, les radios et donc tous les autres symptômes qui viennent avec une spondylarthrite. Et donc, j'ai reçu le diagnostic. C'était un gros choc quand on reçoit un diagnostic comme ça. Voilà, identité d'athlète, de se dire qu'est-ce que je peux continuer à jouer à haut niveau, qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais finir les études. Enfin, ouais, c'est toujours les grosses questions, un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de sa vie? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, j'ai commencé avec des anti-inflammatoires assez forts que ma rhumato m'avait recommandé. Ça avait aidé un peu, mais ça avait causé encore plus de problèmes digestifs. Donc, je savais que ça n'allait pas être la solution long terme pour moi. Et c'est comme ça, du coup, par mes propres recherches, que je suis tombée sur la médecine fonctionnelle. J'habitais encore aux États-Unis à ce moment-là et je suis allée voir un médecin fonctionnel qui a fait beaucoup de tests vraiment détaillés. Enfin, j'avais énormément d'intolérance, j'étais sensible à plein de choses. Et je savais, dès que je mangeais quelque chose qui allait pas trop pour mon corps, direct, j'avais une grosse poussée de douleur au niveau du dos. Je suis allée en Europe et j'ai continué pas finalement avec la médecine fonctionnelle.
Bah, tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu as mis en place et tous les changements que tu as fait, qui t'a suivi un petit peu après. Et je vais passer à Caroline pour nous raconter bah, son expérience à elle et ton diagnostic à toi.
Alors, c'est drôle parce que j'ai commencé à avoir les symptômes en 2012, comme Lana.
Ah ouais.
Alors, en 2012, moi, j'étais une jeune femme hein, de 23 ans qui était pleine d'enthousiasme et de rêve aussi hein, pour l'avenir. Et comme beaucoup à cet âge, bah, je me croyais vraiment invincible avec la vie devant moi, prête à mordre dans chaque opportunité qui pouvait se présenter. Mais voilà, ce que je n'avais pas prévu, c'était que bah, ça allait être brutalement interrompu par cette épreuve, ce défi de santé. Et ça a vraiment commencé par une douleur. C'est vraiment apparu subitement au bas de ma colonne vertébrale. Au début, je me suis dit que c'était quelque chose de temporaire. Mais en fait, cette douleur, elle ne voulait pas partir. Et elle s'intensifiait vraiment de jour en jour, devenant vraiment de plus en plus insupportable. Et très vite, ça a envahi mon quotidien. Et les nuits, c'était pire. Je pouvais plus en fait m'allonger sans ressentir une douleur vive. En fait, dormir, c'était devenu vraiment une épreuve. Je redoutais le moment où j'allais me coucher parce que à chaque fois, à 3 h du matin, je passais mes nuits à trouver une position supportable et je finissais souvent assise. J'étais souvent épuisée, incapable de trouver le sommeil, hein. Et le jour, je boitais. Et en fait, j'avais l'impression, j'avais 23 ans, mais je me sentais comme dans le corps d'une vieille femme. Et j'avais cette impression que mon corps m'avait trahi. Et c'est vraiment dans ce contexte que bah, les anti-inflammatoires, ça a été pour moi bah, une espèce de bouée, hein. Ça me permettait de tenir bon, de tenir mes journées, d'éviter un maximum les ressentis douloureux. Mais en fait, avec le temps, ces médicaments sont vraiment devenus enfin, je suis devenue dépendante des anti-inflammatoires. Donc, c'était vraiment, je me suis retrouvée piégée dans ce cycle de douleur et de soulagement temporaire, mais en fait, sans issue en vue. J'avais pas, pour moi, c'était uniquement ça, les anti-inflammatoires. Et les consultations médicales, bah voilà,
S'enchaîne.
voilà, c'est se multiplier. Mais en fait, à chaque rendez-vous, bah, j'étais d'autant plus perdue et désespérée, que le précédent parce qu'aucun des spécialistes que je voyais, bah, ne semblait en fait capable de m'expliquer ce qui se passait, en fait, de me donner vraiment une explication sensée. Et j'avais l'impression d'être comme un peu une énigme médicale que personne ne pouvait résoudre. Et pendant ce temps-là, en fait,
Ouais.
la douleur a continué, en fait. Et ça tapait complètement le moral. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, après 2 longues années d'errance, enfin, pour moi, on parlait de temps, de moyenne de temps, mais 2 ans, c'est quand même long. Après 2 longues années d'errance, bah, le diagnostic, il est tombé. C'était une bah, voilà, maladie dite incurable qui allait continuer à attaquer la colonne vertébrale, peut-être même me laisser handicapée, c'est ce qu'on m'a dit. Le médecin m'a parlé de traitement à vie, d'anti-inflammatoires quotidiens. M'a même suggéré de me faire reconnaître comme travailleur handicapé pour pouvoir mieux faire face à ce qui m'attendait. Donc franchement, bon, à 25 ans, là, quand j'ai eu le diagnostic, j'avais l'impression que ma vie, mes rêves, tout ce que j'avais imaginé pour mon avenir, bah, c'était en train de s'effondrer complètement sous mes yeux. Et en fait, quelque chose s'est réveillé en moi ce jour-là où j'ai eu le diagnostic, vraiment une détermination à ne pas me laisser abattre, à ne pas accepter en fait ce destin en fait qu'on m'avait dit. J'ai vraiment refusé de croire que ma vie se résumerait à ces douleurs, à ces médicaments. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des alternatives, des solutions que je pouvais maîtriser, qui ne feraient pas de moi une simple patiente dépendante des traitements allopathiques, en fait.
Ouais.
Donc voilà, un petit peu pour. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon histoire, sur mon parcours, vous pouvez écouter le premier épisode de mon podcast Les Résilientes. J'en parle vraiment énormément en détail. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si besoin.
Un super podcast.
Exactement.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est dingue parce que les mots que tu as employés, il y en a beaucoup qui m'ont donné vraiment des frissons parce que je me reconnais. Et pourtant, on a échangé hein, quand même pas mal sur nos histoires. On avait vu les similitudes, mais c'est fou à quel point je me reconnais, moi, dans ton parcours et dans ton histoire. Et on a vraiment vécu les mêmes choses. Et c'était vraiment cette sensation. C'est exactement ça. Moi, j'avais 23 ans et pleine de vie, pleine d'espoir. Je croquais la vie à pleines dents. J'avais énormément de choses qui se passaient dans ma vie. Je sortais beaucoup. J'adorais voyager. Je découvrais tout. J'adorais goûter à tous les aliments. J'étais juste assoiffée de vivre la vie. Et du jour au lendemain, de se retrouver comme ça, alitée. Parce que moi, pour le coup, j'ai passé quand même beaucoup de temps alité, à vraiment pas pouvoir marcher. C'est tellement brutal que c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est un deuil en fait qu'on doit faire sur notre vie. C'est qu'on se dit, mais comment toute la vie que je m'étais imaginée, j'avais projeté des choses qui au final ne vont jamais se passer d'après les dires des médecins. Parce que c'est vrai que c'est assez brutal aussi la manière dont on nous annonce ça. Très souvent, c'est bon, vous avez une spondylarthrite, vous allez sûrement finir votre vie en fauteuil roulant.
Ouais, souvent.
Et je ne comprends pas pourquoi on continue à dire ça aux gens, déjà. Parce que c'est pas vrai, même pour les personnes qui prennent pas leur santé en main. J'ai pas les statistiques, mais ce n'est pas vrai qu'on finit tous en fauteuil roulant. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont des spondylarthrites de tout âge. De par notre métier et de par bah, ce qu'on fait nous avec ce programme et cette passion qu'on a. Ma mère a une spondylarthrite, donc moi ça m'a aidée hein, pour mon diagnostic. Mais je trouve que ce qui nous limite encore plus, c'est certes la maladie qui est extrêmement contraignante, qui crée beaucoup de douleurs et beaucoup de limites physiques, mais c'est aussi, je trouve, les médecins qui nous limitent d'un point de vue mental, où on nous case dans cette case de victime, cette case de vous êtes victime de votre santé et vous êtes victime de cette maladie et il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce qu'une victime, c'est pas quelqu'un qui prend les devants. Alors on peut le devenir. Moi, j'ai vraiment eu cette identité de victime pendant très longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire, même alors que j'ai commencé à aller mieux. Je ne sais pas si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans aussi.
Oui, complètement.
Et je trouve que c'est là, ouais, c'est là qu'on se retrouve le plus limité. Et donc, comme toi, bon, je ne vais pas raconter trop en détail, moi, mon parcours, parce que déjà, je le partage à chaque fois. Mais c'est vrai que comme toi, voilà, 23 ans, les débuts, et pareil, d'être allongée, c'était insupportable. D'être assise, c'était insupportable. De marcher, c'était quasi impossible. Je faisais des petits pas de pingouin à l'âge de 23, 24 ans. Et pareil, moi je cherchais par tous les moyens d'avoir ce diagnostic et personne voulait me le donner, ce diagnostic. Je savais que j'avais une spondylarthrite, ma mère avait une spondylarthrite, j'avais le HLA-B27 positif, j'avais les symptômes un peu classiques, mais pas trop classiques, mais j'avais pas les IRM qui le montraient. Et j'ai fait 3-4 rhumatos différents, le nombre de fois que je suis sortie en pleurs de ces consultations. Parce que bah, ce sont des personnes qui voient 10, 15 patients par jour et qui n'ont pas le temps en fait, d'avoir de l'empathie pour toi. Et qui sont parfois un peu brutes hein, avec leurs paroles. Et quand j'ai eu ce diagnostic, moi personnellement, ça a presque été. C'était un. Comment dire, un relief,
Soulagement.
un soulagement. Ouais, moi c'était vraiment quand j'allais faire mes IRM et qu'on me disait tout va bien, j'étais en pleurs. Et quand enfin on m'a donné ça aussi, c'était un soulagement parce que je disais ok, maintenant je sais ce que j'ai, maintenant je peux mettre les choses en action pour aller mieux. Alors j'ai commencé par poser des questions à mes médecins. Est-ce que je peux changer mon alimentation? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Non, il y a rien à faire. Non, il y a rien à faire. Ok, je me suis dit. Ils me disent ça, j'y crois moyennement, mais pourquoi pas? Ça a mis quelques mois à maturer un petit peu. Et c'est en déménageant aux États-Unis que là, je suis tombée dans la médecine fonctionnelle, comme Lana parlait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai découvert un monde, en fait. Et il y avait tellement de choses qu'on pouvait faire. Il y avait tellement de témoignages d'espoir qui m'ont, moi, donné cette force et qui ont ravivé cette flamme en moi. Et puis, après, c'était parti, quoi. Donc, je pense que c'est important d'avoir cet élément d'espoir et de savoir que c'est possible. Et de ne pas rester coincé dans cette mentalité de victime auquel on a le droit. On est tout à fait légitime en tant que victime de notre maladie, parce que c'est une maladie qui est difficile à vivre, mais ce n'est pas le dernier, ce ne sera pas votre dernier mot. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut passer peut-être justement sur ces paroles, de passer à qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être Lana, on peut reprendre avec toi. Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as parlé d'un médecin fonctionnel que tu as vu, où d'ailleurs? Où est-ce que tu l'as vu? Et qu'est-ce que tu as entrepris comme changement?
Donc le médecin fonctionnel, j'ai commencé quand j'étais aux États-Unis, que j'ai après continué une fois que j'ai déménagé en Allemagne. Et donc la première chose, c'était de, je disais, guérir un peu tout ce qui est niveau santé intestinale, enfin aborder ça. Donc j'ai changé mon alimentation énormément, c'était un peu ma première étape. Donc j'ai arrêté de manger du gluten, tout ce qui était un peu pro-inflammatoire. Donc je savais tout, produits laitiers, gluten, du sucre. Tous les ouais j'en mangeais beaucoup hein, comme athlète aussi et toutes les boissons de sport tout ça voilà j'ai
Ah
coupé
oui.
pas mal de choses donc c'était pas top après j'ai bien sûr fait aussi tout ce qui est complément alimentaire donc là j'ai fait pas mal de tests sanguins voir où j'avais des carences j'en avais beaucoup j'avais un vrai protocole de tout ce qui était un peu ouais complément alimentaire direction de naturopathie aussi hein, donc des médicaments plus naturels. Donc ça m'a énormément aidé. Et après, comme tu disais, c'était un peu de se remettre, ouais, un peu avoir cette réflexion, quels sont les autres domaines de ma vie qui sont finalement pro-inflammatoires. Et donc pour moi, c'était aussi beaucoup de stress, tout ce qui est le côté mental, hein, de toujours faire beaucoup trop rapidement. Et donc de me remettre un peu en question là-dessus aussi, de dire, OK, comment est-ce que je peux essayer d'aborder mon stress, essayer de ralentir finalement tout mon système nerveux. J'ai dû réapprendre à faire du sport de façon mieux pour mon corps, parce que mon corps
Douce.
est moins douce, ouais, voilà. Ce qui n'est pas facile comme quand on vient d'un athlète aux États-Unis, c'est toujours go, go, go. Mais
Est-ce que
voilà,
tu as
donc.
fait tout ça seul? Enfin, une fois que tu as déménagé en Allemagne, est-ce que tu continues à avoir ton médecin fonctionnel, mais à quelle reprise? Est-ce que tu avais d'autres personnes autour de toi? Tu avais construit une équipe ou est-ce que tu faisais tout ça seul?
Le médecin fonctionnel, je le voyais peut-être une fois tous les 2, 3 mois, finalement, c'était pas énormément. J'ai fait beaucoup avec ma famille au début et après j'ai travaillé avec une thérapeute pour aborder tous les thèmes un peu ouais, niveau santé mentale. Et après j'avais aussi tout ce qui est côté physique un peu. J'avais un ostéopathe que je voyais une fois par mois. Donc j'ai essayé de vraiment me créer ma propre petite équipe de gens qui écoutaient et qui pouvaient me comprendre. Voilà, c'était pas toujours facile parce qu'il y a quand même des phases où on se sent un peu seul, hein, surtout au début. Mais finalement, cette équipe m'a beaucoup aidée. Et ouais, c'est l'esprit de communauté, d'avoir du soutien. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai. Plusieurs choses, ouais, finalement, et on voit que tout est connecté. Donc, une fois qu'on arrive à mettre une habitude de la vie en place, ça peut aider pour d'autres habitudes. Et comme ça, ouais, peu à peu, c'est ça aussi, hein. Je pense que c'est le mot de dire tout ce que vous mettez en place là, c'est avoir la patience vraiment aussi.
Combien de temps tu as mis pour vraiment te sentir presque comme avant ou comme avant?
Donc là, je dirais que je suis en mode rémission depuis 2019 et j'ai eu le diagnostic en 2015, donc. 2012, ouais, donc j'avais quand même 7 années, ouais, 4 années depuis le diagnostic pour vraiment arriver au statut de rémission. Voilà. En Allemagne, on a la chance d'avoir un hôpital qui est spécialisé en médecine finalement fonctionnelle ou intégrative. Donc j'ai fait 2 fois ça aussi, ça m'a énormément aidé. Mais oui, c'est pour ça, voilà, c'est ce que je dis, ça met du temps, c'est beaucoup de travail, mais bon, ça en valait la peine et plein de belles choses en suivent de ça.
Bah oui, ouais, c'est clair. Bien, merci. Caroline, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu pour toi comment, à quoi a ressemblé cette période de changement et comment as-tu retrouvé la rémission?
Oui, par rapport à mon parcours de rémission, donc après avoir reçu le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante, bah, j'ai été confrontée hein, à un choix important, accepter la voie que les médecins me proposaient avec un traitement à vie, des médicaments à répétition, et puis aussi une vie quand même limitée par la douleur malgré tout, hein, parce que les médicaments parfois ne sont pas efficaces, ou bien explorer une autre voie. Et ce choix, ça n'a pas été facile. Et les premiers jours après le diagnostic, bah, ça a été marqué surtout aussi par la peur et l'incertitude. Mais en fait, au fond de moi, quelque chose me poussait vraiment à refuser cette vie qu'on voulait m'imposer, hein, c'est-à-dire subir à vie cette maladie. Et ce jour-là, en sortant du cabinet du rhumatologue, bah, il y avait vraiment un mélange à la fois de révolte, mais aussi d'espoir. Je me suis vraiment promis à ce moment-là de ne pas laisser la maladie définir qui j'étais ou ce que je pouvais vraiment accomplir. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis tournée vers la naturopathie. C'est comme ça que mon parcours vers la rémission a commencé. Ça a été un sacré chemin qui m'a transformée franchement de manière profonde et durable. Au départ, vraiment, j'avais aucune idée de ce que j'entreprenais. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais absolument pas continuer comme ça. Que je devais chercher d'autres solutions, des alternatives qui me permettraient de reprendre le contrôle de mon bien-être. Et oui, ce parcours de rémission a été long, parfois oui, semé d'embûches, mais en fait, à chaque étape, je dirais que chaque étape m'a rapprochée un peu plus de ce que je visualisais, de mon objectif de mieux-être. Il m'a fallu vraiment du temps, de la patience, Lana en parlait très bien, et beaucoup de persévérance. Mais en fait, chaque petit progrès, bah, c'était comme un peu une victoire. Et je me souviens encore du jour où, pour la première fois depuis bah, voilà, des années, j'ai pu marcher vraiment sans douleur. Et ce moment, bah, c'était simple en apparence, mais c'était la preuve que tous mes efforts n'étaient pas vains et que je pouvais vraiment surmonter cette maladie, que la rémission était possible. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, ben, je réalise combien en fait ce parcours il m'a vraiment transformée. Il m'a non seulement guéri, j'utilise le mot guérison parce que je m'estime, parce que ça va faire 8 ans maintenant que je ne subis plus la maladie, mais il m'a aussi vraiment appris à mieux me connaître, à écouter mon corps, à respecter mes besoins. Et cette expérience m'a montré vraiment qu'on a toutes et tous en nous la capacité d'aller mieux. Vraiment de nous réinventer et si on a vraiment une solution, évidemment, qui nous convienne. Donc ça, voilà, par rapport à mon parcours de rémission.
Bah, c'est vrai que ce point de non-retour, je pense que c'est ce qui a déterminé moi aussi ma persévérance et mon besoin de trouver autre chose et de me dire, il doit y avoir une solution. Si je suis tombée malade, je dois pouvoir guérir. Ce n'est pas possible, je ne veux pas concevoir que du jour au lendemain, pour on ne sait pas quelle raison, déjà, trouvons les raisons, comprenons pourquoi. C'est vrai qu'on nous explique très peu. Le problème, c'est que les maladies auto-immunes sont quand même des maladies qui sont relativement récentes, qui sont de plus en plus nombreuses, qui comptent de plus en plus de personnes. Et donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de spécialisation dans la médecine allopathique. Il n'y a pas de spécialisation dans les maladies auto-immunes. Il n'y a pas énormément de choses qui sont abordées. Et donc, c'est vrai que quand on va voir un médecin pour une maladie auto-immune, par exemple rhumatologique, on va voir un rhumatologue, mais lui, il va regarder la partie rhumatologique, il va regarder les articulations et le problème articulaire. On lui a dit bah, tel et tel médicament fonctionne et basta. Mais il cherche pas à comprendre le pourquoi du comment et de comprendre vraiment le fonctionnement immunitaire qu'il y a derrière, les déficiences, les carences nutritionnelles, quels pourraient être les déclencheurs. On nous apprend pas à creuser là-dedans. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait des solutions. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé ces solutions-là, j'ai été vraiment par hasard. On m'a envoyé un lien c'était pas un webinaire, mais c'était une sorte de documentaire sur les maladies auto-immunes avec tout un tas de différents médecins fonctionnels qui étaient interviewés. Et moi, ça m'a fait ce déclic et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé où je peux creuser, où est-ce que je peux aller. Et là, je me suis plongé la tête la première. J'ai contacté le médecin fonctionnel qui, moi, me paraissait le plus calé. Donc, j'ai contacté lui. J'ai mis toutes mes économies. À l'époque, hein, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de sous. Ça coûte très cher aux États-Unis. Ça m'a rien que le médecin fonctionnel, ça m'a coûté dans les 6 000 dollars avec les tests, les consultations. J'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a dit de faire. Et puis, toutes les choses qu'il me disait de faire, je plongeais et je voulais tout comprendre. Lui, évidemment, il n'avait pas le temps de tout m'expliquer. Et puis, il coûtait 350 dollars la consultation. Donc, j'allais pas non plus faire consulte sur consulte. Mais du coup, moi, je faisais mes recherches de mon côté. Tous les podcasts que je pouvais trouver, tous les articles dans la littérature scientifique, je plongeais dans PubMed, c'est là où il y a toutes les études scientifiques qui sont recensées. Je me suis formée un peu toute seule au début. Je me suis prise de passion, déjà pour ma santé. Mais surtout, je trouvais que c'était passionnant de comprendre pourquoi et d'avoir vraiment cette compréhension physiologique, biologique et holistique aussi. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait des vrais changements alimentaires et j'étais toujours sous médicaments. Je prenais Symphonie, j'étais sous biothérapie. Je crois que je suis la seule des trois d'ailleurs à avoir fait des biothérapies. Ouais.
Mais moi, j'en ai pas pris.
Ouais. Bah, moi, à l'époque, je suis. Et c'est pareil, quand tu as dit je me suis sentie transformée, je me vois aussi beaucoup là-dedans. C'est que pour moi, il y avait la Lorane d'avant et la Lorane d'après. Et je suis carrément plus amoureuse et à fond dans la Lorane d'aujourd'hui que la Lorane d'avant. Je pense que grâce à cette maladie, j'ai vraiment trouvé ma voie. Mais du coup, ce côté-là d'avant où j'étais très allopathique, dès que j'avais un petit bobo, un petit truc, je prenais un médicament. Donc moi, on m'a dit, il y a une piqûre que vous pouvez faire tous les mois qui va vous régler votre problème. J'ai dit, OK, go, j'ai même pas cherché à comprendre. Quels étaient les potentiels risques, les retombées, enfin voilà. Donc j'étais sous biothérapie et pendant tout mon parcours de rémission, j'ai seulement commencé à avoir des améliorations une fois que j'ai changé mon alimentation, parce que j'ai commencé par mon alimentation pour à peu près la première année. J'ai absolument pas abordé tous les autres topics. J'ai fait que alimentation, santé intestinale pendant la première année. Et j'ai seulement à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des changements. Ça faisait déjà 3-4 mois que j'étais sous Symphonie, enfin sous mon entité NF. Très peu de changements. Je pouvais marcher 5 minutes. Et j'étais vraiment. Ouais, je dépendais de Codoliprane toute la journée. Donc je prenais 6 Codoliprane par jour et du Lamaline quand il y avait besoin. Enfin, c'était vraiment une dépendance forte aux médicaments et avec toujours beaucoup de douleurs, même avec les médicaments. Et à partir du moment où j'ai commencé à changer mon alimentation, c'est là que j'ai vu des améliorations et l'espoir qui grandit de plus en plus. Et je me rappelle, ça faisait peut-être 6 mois que j'avais entrepris tout ça. Et je pouvais commencer à marcher. Non, 6 mois, je pense que je pouvais marcher à peu près 20 minutes sans que ça tire trop. Mais au bout d'un certain temps, je ne sais plus exactement, peut-être 9 mois, à un moment donné, on habitait à New York à cette époque. Et il fallait courir, il y avait le petit bonhomme vert qui allait passer au rouge. Et il donne un décompte de 3, 2, 1, et ça passe au rouge. À New York, on sait, il y a le petit bip bip. Et donc on commence à traverser la route, et c'est des grandes avenues, et je suis avec mon mari, et moi je marche très lentement. Et donc je marche, et là, ça va passer au rouge bientôt, il y a des voitures qui arrivent, et on se dit, oh là là, vite, vite, vite. Et d'instinct, on a commencé à courir, c'est un grand mot, mais on a commencé à trottiner. Mais moi, ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas trottiné, ne serait-ce que marché rapidement. Et donc on est en train de trottiner et on se regarde avec des grands yeux et on s'arrête en plein milieu de l'avenue avec le petit bonhomme qui passe au rouge et on commence à se prendre dans les bras et on se dit, oh! Et, je crois qu'il même il m'a regardé, il m'a dit, mais tu cours? Et moi je lui dis, mais je cours. Et c'était vraiment un moment de pur bonheur parce que c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, ok, j'ai des vraies améliorations. C'est pas juste une petite sensation au quotidien, c'est que c'est fort et c'est fou. Et la première fois que j'ai pu faire une randonnée, j'ai pris une photo ce jour-là. J'ai fait une randonnée de 1 heure et demie avec des amis, quelque part en plein milieu des États-Unis. Et c'était une sensation. Je crois que j'ai pleuré en arrivant en haut parce que je me suis dit, mais ça y est, tout ce que j'ai fait, c'était pas en vain. Et j'avais encore du progrès à faire. Hein. J'avais mal. J'avais quand même un petit peu mal quand je suis arrivée là-haut, Mais j'ai réussi, alors qu'auparavant, je me serais complètement tétanisée, je serais restée assise, je n'aurais absolument pas pu faire un pas de plus. Donc cet élément-là, c'était vraiment une force de
C'est
voir.
des belles mémoires, ça, hein, pour
Ouais.
toi, de garder ça. Et ouais, ça m'a donné les frissons, même. C'est un peu ton point culminant, quoi. C'est le début de la nouvelle vie. Mais tu cours, je cours. Et donc, de réaliser ça, enfin, c'est marrant, c'est sympa.
Oui, parce qu'après aussi, il y a son entourage qui se met aussi dans cette bulle de t'es malade, on est mal, je suis malade, je dois m'occuper de toi. Donc pour lui aussi, c'était un choc, enfin, c'était incroyable. Il se dit, mais what? Tu sais courir? Enfin, t'arrives à courir maintenant? Donc ouais, voilà un petit peu sur mon parcours aussi de rémission. Est-ce qu'on peut partager chacune brièvement les choses un peu majeures qu'on a entreprises? Peut-être trois, quatre choses qu'on a entreprises qui ont le plus d'impact sur notre rémission.
Alors, je crois que je l'ai déjà abordé tout à l'heure. Pour moi, c'était l'alimentation. C'était un point important. Le deuxième, c'était apprendre à gérer mon stress. Comment je réagis quand je suis dans des périodes de stress. Comment j'arrive à me calmer. Donc aussi tout ce qui est un peu de réguler mon système nerveux. Parce que j'étais réactive, stressée sur plein, plein de choses. Donc apprendre à faire moins en fait, apprendre à ralentir la cadence de la vie ou le mode de vie.
Est-ce qu'il
Et
y a
que
des
ça...
outils particuliers que tu utilisais?
Donc il y en a beaucoup. Déjà, c'est apprendre à faire des pauses, c'est-à-dire de rien faire ou de faire quelque chose de bien pour sa santé mentale, lire un livre, aller faire une promenade, prendre un bain chaud, rien faire, jouer avec les animaux. Faire une sieste, hein, donc de sortir un peu de je dois être productive et que c'est OK de rien faire de très productif juste pour soi-même. Et je le vois ça aussi avec beaucoup de mes clients maintenant, c'est une grosse chose, quoi, tout ce qui est stress. Donc ça c'est les deux plus gros points, je dirais. Et après, ce que j'ai aussi, tout ce qui est un peu réapprendre à faire du sport qui fasse du bien pour mon corps. Maintenant, ça a encore évolué. Pour mon bonheur, que je puisse faire plus. Mais ça, c'est ce que je vois aussi avec beaucoup de personnes, c'est de ouais, quel genre de sport fait du bien. Et comment ne pas faire trop, comment bouger quand même assez bien. Enfin, c'est le mouvement et le sport. Donc ça, c'est un peu mes trois gros piliers que j'ai abordés et qui m'ont beaucoup aidée. Ouais.
Ouais. Et dans l'alimentation, toi, tu étais plutôt côté AIP, régime anti-inflammatoire, plutôt presque cétogène ou paléo.
Au début, oui, j'étais assez stricte avec ça, mon protocole auto-immune. Après, j'ai remarqué qu'il me fallait quand même plus de féculents, donc je les ai réincorporés un peu plus. Mais vraiment tout ce qui est de nature sans gluten. Et voilà, et de manger moins de choses qui sont préparées, industrielles. Enlever tout ce qui est pro-inflammatoire et rajouter tout ce qui est à plein de densité nutritionnelle pour le corps.
Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Caroline, du coup, j'ai hâte que tu partages aussi, toi, les choses un peu naturelles que tu as mises en place, parce que le côté, alimentaire a été différent pour toi que pour Lana et moi. Alors moi, je suis restée AIP pendant très longtemps et j'ai toujours une sorte de version AIP que je suis. Mais comme quoi, il y a plusieurs manières aussi de trouver la rémission. Il y a des choses en commun avec tous ces régimes qu'on entend parler, le Walls protocole, les AIP, le cétogène, Señale, toutes ces choses-là. Il y a quand même beaucoup de choses en commun au final et c'est ces communalités qui sont importantes. Mais explique-nous un petit peu, toi, les trois, quatre choses que tu as mis en place de ton côté.
Alors, lorsque j'ai commencé mon parcours vers la rémission, très vite j'ai compris que l'amélioration de mon contexte de santé, ça n'allait pas être simple, ça allait être assez complexe. C'était pas une seule pratique ou un remède qui allait vraiment améliorer mon bien-être. J'ai compris en fait que c'était une accumulation de petites choses, de changements progressifs. Et c'est cette approche holistique, cette attention, je dirais, minutieuse à chaque aspect de ma vie qui m'a véritablement amenée sur ce chemin du mieux-être. Évidemment, l'alimentation, ça a été l'un des premiers leviers sur lesquels j'ai agi lorsque j'ai commencé à revoir mon mode alimentaire. Je pensais naïvement que ça suffirait à tout changer. Donc j'ai adopté une alimentation anti-inflammatoire plutôt type régime signalé. Donc par la méthode AIP, donc en éliminant les aliments qui aggravaient ma condition, qui sont assez connus hein, pour tout ce qui est pathologie auto-immune. Et j'ai appris à nourrir mon corps avec des aliments qui vraiment lui faisaient du bien, qui apaisaient l'inflammation au lieu bah, de l'attiser. Mais très vite, vraiment, j'ai compris que si l'alimentation était une base essentielle, ça représentait qu'une partie du puzzle. En fait, mon corps réagissait positivement à ces changements, mais mes symptômes n'étaient pas complètement sous contrôle. C'est là que j'ai réalisé que mes émotions, mon mental et mon état d'esprit jouaient vraiment un rôle tout aussi important en fait dans l'amélioration de mon bien-être. J'ai dû me pencher sur du coup mon état d'esprit, sur la manière dont je gérais mon stress, sur mes pensées qui envahissaient mon esprit vraiment au quotidien. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que bah, la rémission, ça pouvait pas être complète sans un travail profond. Et le stress, par exemple, c'est un facteur aggravant évident. On peut faire tout ce qu'on veut au niveau alimentaire, avoir une superbe alimentation anti-inflammatoire, mais si à côté de ça, on est hyper stressé, on n'arrive pas à gérer correctement son stress, c'est tellement pro-inflammatoire. En fait, chaque pic de stress, pour moi, ça se traduisait par des poussées inflammatoires, par une recrudescence de mes douleurs. Donc, j'ai vraiment appris à observer mes réactions face aux événements stressants, à ne plus me laisser envahir par l'anxiété. C'était vraiment un travail de tous les jours. Ce n'était pas facile, parfois vraiment invisible, mais vraiment ô combien essentiel. Et j'ai intégré, par exemple, des pratiques de relaxation dans ma routine quotidienne qui me convenaient, hein, parce qu'il y en a tellement. Mais ces moments de pause, en fait, me permettaient vraiment de calmer mon esprit au quotidien, de relâcher les tensions qui s'accumulaient vraiment dans mon corps et qui se traduisait par les douleurs. En parallèle, j'ai commencé à explorer vraiment le côté émotionnel, mes émotions, à ne plus les ignorer comme je le faisais auparavant. J'ai compris que beaucoup de mes souffrances physiques étaient liées à des émotions refoulées, à des peurs, à des frustrations non exprimées. J'ai travaillé en fait, vraiment sur moi-même pour identifier ces émotions, les accueillir et les laisser s'exprimer plutôt que de les garder bah, en moi. Hein. Et ça a été un processus vraiment libérateur. Ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même, de me comprendre, comme je disais auparavant, en profondeur. Et en fait, cette approche globale où chaque petite action, chaque petit changement, bah, ça a son importance. Ça m'a permis de créer un équilibre nouveau dans ma vie. C'était pas juste une question de suivre un mode alimentaire ou de pratiquer une technique de relaxation, c'était bien plus vraiment que ça. C'était vraiment j'ai réinventé un peu ma manière de vivre. C'était un ajustement constant pour répondre à mes besoins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, pour respecter qui j'étais réellement. Et le résultat de cette accumulation de petites choses, bah, c'était bien plus puissant que tout ce que j'aurais pu imaginer parce que. Alors, ma rémission n'a pas été linéaire, elle n'a pas été instantanée, mais elle a été vraiment réelle, puisque je vous dis aujourd'hui, je ne suis plus du tout cette maladie. Enfin, j'y pense plus aujourd'hui, hein, vraiment, hein, c'est du passé. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je vis avec conscience, une conscience vraiment importante, enfin, je dirais une conscience aiguë de l'importance de chaque choix que je fais, de chaque pensée que j'entretiens, de chaque émotion que je ressens. Et c'est cet ensemble, ce tout cohérent. Qui a transformé ma vie, qui m'a permis vraiment de ne plus subir la maladie. Et cette approche holistique, ce n'est pas simplement une méthode de rémission, c'est vraiment devenu une manière de vivre. Chaque jour, bah, je continue d'ajuster, évidemment, de réévaluer, de prendre soin de chaque aspect de ma vie. Ce n'est pas fini, en fait, hein. Même si aujourd'hui, j'ai plus les symptômes, je continue à avoir cette conscience, avoir cette attention globale, cette vision d'ensemble qui me permet de rester en santé, tout
Ouais. Bah, en
simplement.
fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme des niveaux. Moi, je vois ça aussi comme bah, j'ai passé le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, certes, je suis complètement en rémission et moi, je m'estime aussi guérie. Mais j'ai quand même encore des niveaux et des paliers. On a toujours des améliorations à faire. Et c'est comme s'il y avait des nouveaux niveaux à débloquer avec bah, plein de nouvelles astuces et plein de nouvelles choses qu'on peut intégrer dans notre quotidien.
C'est un puits sans fond. En fait, à partir
C'est
du
ça.
moment où on met le doigt là-dedans, on continue, on poursuit. Et on apprend encore plus à se connaître, à répondre à nos besoins. Ouais, c'est permanent.
Ouais, c'est ça. Et pour ma part, pour les quelques choses majeures qui ont vraiment changé mon parcours et ma rémission, je pense que c'était premièrement de comprendre mes déclencheurs. Alors, je dis ça, on ne peut pas réellement savoir exactement quels sont nos déclencheurs. C'est juste d'avoir cette compréhension de quels sont les potentiels déclencheurs, qu'est-ce que moi, je pense, aurait pu contribuer. Sachant qu'il y a toujours quand même ce côté surcharge toxique. Donc, j'ai diminué largement ma surcharge toxique. Je réfléchissais à absolument tout ce qui passait le pas de ma porte, tout ce que j'utilisais dans mon quotidien, tout ce que je mettais sur ma peau, l'air que je respirais. J'ai jeté toutes les bougies parfumées que j'avais, parce que j'adorais les bougies parfumées. J'ai vraiment fait un changement dans ma cuisine, de passer du plastique au verre, du téflon au inox. Voilà, donc j'ai vraiment fait un changement de mes habitudes quotidiennes et des choses que des produits que j'achetais, même les produits ménagers, mais aussi de comprendre tout le côté santé intestinale. Moi, ça a été énorme pour moi. Moi, j'ai grandi, j'ai eu une enfance. Avec énormément de symptômes digestifs, c'était même assez handicapant et j'avais beaucoup honte parce que je courais beaucoup aux toilettes, je voulais pas que les gens y sachent, j'avais des spasmes qui étaient absolument douloureux au pas possible. Dès que j'avais un moment de stress, chaque année mes parents y partaient un week-end en amoureux, en vacances. Et chaque année, ce week-end-là, je le passais aux toilettes. Alors, je ne vais pas vous donner des détails, mais j'avais toujours des problèmes de digestifs abominables liés au stress. J'allais au parc Astérix, je faisais des manèges. Au bout de 1 heure, je devais courir aux toilettes. C'était vraiment pour vous décrire à quel point c'était handicapant pour moi et que c'est difficile. Aujourd'hui, j'en parle absolument sans tabou parce que maintenant, mon métier, c'est de parler des selles et des problèmes digestifs des gens et que j'adore ça. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué. C'était compliqué à gérer. Et maintenant que je comprends le lien, je trouve que ça donne beaucoup de. Ça redonne le pouvoir, en fait. J'ai vraiment eu ce moment où le pouvoir m'était redonné à moi en comprenant d'où venait le problème. Et ensuite, moi, la composante alimentaire, donc tout de suite, j'ai commencé les IP. Ce médecin fonctionnel, en fait, ne m'a même pas fait faire les IP. Lui, il m'a fait faire un régime anti-inflammatoire assez classique. Et moi, ensuite, je me suis renseignée sur les IP. J'ai acheté tous les bouquins. Je me suis inscrite à certaines petites formations individuelles et j'ai entrepris ce régime. Et moi, ça a été vraiment un changement assez instantané mais graduel. Comme Caroline, enfin, j'ai vraiment senti cette rémission petit à petit hein, venir, mais j'ai mis 18 mois à pouvoir arrêter mes piqûres. Donc pendant tout ce temps, je faisais quand même mes anti-TNF, je prenais mes anti-TNF, j'ai fait mon changement alimentaire la première année et je suis arrivée. J'étais capée parce que je prenais toujours mes antidouleurs, je prenais toujours mes anti-TNF, mais espacés, je les espaçais de plus en plus. Mais j'ai repris le travail, donc j'étais en marketing à l'époque, donc j'ai repris le travail, j'arrivais à avoir une vie à peu près normale, sauf que je prenais des antidouleurs dans la journée et je marchais peut-être une demi-heure sans trop de douleur. Donc heureusement, à Manhattan, il y avait plein de métros de partout, donc je m'en sortais très bien, je n'avais pas beaucoup besoin de marcher, mais. Voilà, disons que j'avais une vie correcte, mais il me manquait clairement quelque chose et j'étais absolument pas en rémission et j'étais pas encore, j'étais pas satisfaite d'où j'étais. Et à ce moment-là, ça faisait 1 an, à ce moment-là, on a déménagé à San Francisco. Et donc là, j'étais dans le monde un peu plus des hippies, le monde de la méditation, du yoga. Et donc moi, j'avais absolument jamais entrepris ce genre d'activité. Et d'un coup, je me plonge dans l'acupuncture, dans le yoga, dans le qigong. Moi, le qigong, ça a été une révélation. Je faisais 2 fois par semaine, c'était extraordinaire. Je me suis plongée dans l'EFT, donc une technique aussi de relaxation et que Caroline et Lana font d'ailleurs. Donc, je pense que vous pourrez en parler mieux que moi. Mais j'ai fait beaucoup d'EFT, c'est quand on se tape sur des endroits très particuliers du corps pour faire un peu un reset du système nerveux. Et tout ça cumulé en l'espace de 3 mois, j'ai réussi à accomplir ce que j'avais accompli en 1 an avec juste le changement alimentaire. Donc pour moi, ça a été vraiment un déblocage incroyable. Et c'est que je me suis dit, alors ok, l'alimentation en fait beaucoup, mais ça fait clairement pas tout. Et vraiment, ce qui m'a débloqué complètement et ce qui m'a permis d'arriver à arrêter mes piqûres et enfin bah, réaliser mon rêve d'être maman aussi, parce que quand on est sous anti-TNF, on ne peut pas tomber enceinte. Et moi, ça a été ma motivation principale qui me prenait vraiment les tripes. Et donc enfin, j'ai pu arrêter tout ça grâce à tout ce qui était mental, gestion du stress et tout ça. Donc on insiste beaucoup là-dessus, on en a parlé toutes les trois, mais parce que c'est vraiment une grosse composante. Du coup, est-ce qu'on peut très brièvement dire bah, quel est notre quotidien, quelle est une journée type ou une semaine type pour donner un petit peu des idées aux gens et encore un peu plus d'espoir peut-être?
Je vais faire très brièvement, peut-être juste sur une
Ouais.
journée. J'essaie de dormir 8 heures. Ça, c'est quelque chose que je priorise, c'est d'avoir toujours 8 heures de sommeil. Et je commence assez lentement ma journée. Donc, je me fais un thé, peut-être une petite méditation, une petite séance de yoga. Et après, donc, je vais travailler. Souvent, je fais une pause déjeuner où je vais aller à la salle de sport. Donc, voilà, donc, je travaille avec mes clients. J'ai différentes séances, les projets. Et le soir, j'essaie de vraiment trouver un moment pour ralentir à nouveau, de faire une promenade avec mon copain, juste de faire quelque chose de relaxant. Voilà, et de passer assez de temps aussi pour cuisiner, bien sûr. Donc, j'essaie de manger 3 fois par jour ce que j'ai préparé moi-même. Donc, soit je prépare le soir pour que j'ai les restes pour le lendemain. Voilà, donc c'est toujours un peu. Donc, c'est un bon petit mix de bien s'occuper de moi-même, donc de tout ce qui est self-care et d'être là pour d'autres personnes. Et ce que Caroline disait tout à l'heure, c'est un peu toutes vraiment les petites habitudes de la vie que maintenant j'y pense même plus, sont vraiment intégrées dans mon quotidien. Et ça aide d'avoir un peu cette routine, vraiment, ça fait du bien, ouais.
OK. Caroline?
Aujourd'hui, ma vie est bien différente de celle que je menais avant de traverser cette épreuve de santé. Le matin, je commence toujours ma journée par un moment de calme avant même que la maisonnée ne s'éveille. Je me lève, en fait, je me réveille vraiment avant mes enfants pour prendre le temps de méditer, de respirer, de centrer mon esprit. Je fais du brain dump. J'écris beaucoup sur papier pour me débarrasser de toutes les pensées. En fait, je me fais une hygiène. Mentale dès le matin. Ces minutes, elles sont vraiment essentielles pour moi. Ça dure pas longtemps, hein. Elles me permettent de commencer la journée avec une intention claire et une énergie positive. Et c'est vraiment un rituel qui m'aide à rester connectée à moi-même, à mes sensations, à ce que je ressens vraiment. Et mon alimentation, alors, reste un pilier fondamental dans mon quotidien, dans mon bien-être quotidien. Je prépare mes repas avec soin, en choisissant des ingrédients qui nourrissent non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. C'est plus une question de suivre un mode alimentaire strict, mais plutôt de respecter ce que mon corps demande, de lui offrir ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Et vraiment, les repas sont devenus un moment de plaisir. Au cours de la journée aussi, je fais de mon mieux pour maintenir un équilibre entre mes activités pro et perso. Être à l'écoute de mon corps, c'est vraiment devenu une priorité depuis que j'ai eu ce défi de santé. Si je ressens de la fatigue ou des tensions, je prends le temps de m'étirer, de faire une pause, de marcher un peu. Mon quotidien, c'est plus une course contre la montre, mais vraiment un rythme que je choisis en fonction de mes besoins. Et émotionnellement, je suis beaucoup plus stable aujourd'hui. J'ai appris à reconnaître mes émotions dès qu'elles se manifestent, à les accueillir sans jugement. C'est pas simple, mais à les exprimer de manière un peu plus saine. Et il m'arrive, hein, encore d'avoir des moments de stress ou d'anxiété, mais je sais maintenant comment les gérer, comment les traverser sans me laisser submerger. Et notamment la pratique de l'EFT, ça reste un outil précieux dans ces moments-là. Ça me permet de me libérer des tensions avant qu'elles s'installent. Et le soir, je clôture ma journée aussi avec un autre moment de tranquillité où je prends le temps de faire le point sur ma journée, de reconnaître mes moments de joie, les défis que j'ai pu rencontrer. Et ces moments de réflexion, ça m'aide à rester toujours ancrée, à apprécier, à me préparer pour le lendemain vraiment avec une attitude positive. Alors, ma vie, elle est, aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Il m'arrive encore d'avoir des jours plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour, je me lève avec vraiment la certitude que j'ai les outils et la force intérieure pour vivre pleinement en harmonie avec moi-même. Grâce notamment à cette spondy, depuis enfin, que j'ai eu cette spondy, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Mon quotidien, c'est vraiment une écoute de mon corps, la gestion de mon esprit et l'expression de mes émotions. Et chaque jour, je choisis de prendre vraiment soin de moi, de cultiver cette paix intérieure, de vivre vraiment avec gratitude pour tout ce que j'ai appris. Et du coup, évidemment, si je prends soin de moi, je suis bien avec les autres et tout
Il faut
va
prendre
bien.
soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres aussi.
Tout à fait,
Ouais.
complètement.
Bah oui, moi c'est pareil. Je pense que c'est vraiment des moments de. Moi, c'est surtout beaucoup de gratitude que j'essaye de garder en moi et de ressentir au quotidien. Et de se rappeler que bah, il fut un temps où je n'avais pas même une lueur d'espoir d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et quand je me réveille le matin et que j'ai mes deux puces. Qui m'attendent, c'est un vrai moment de plaisir, même quand on n'a pas dormi de la nuit. Et donc, comme toi, Caroline, je me réveille un petit peu avant, je me fais mes étirements, j'aime beaucoup faire de la respiration, j'essaye de prendre le temps, mais moi, je continue quand même à courir partout. Je suis toujours assez speed dans mon quotidien, mais ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais sinon, toutes les bonnes habitudes que je pense que j'ai un mix de vous deux. Et ces bonnes habitudes-là, de réfléchir à qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui, même d'un point de vue alimentation. Alors, j'ai toujours des choses que je ne mange pas. Moi, je ne mange toujours pas de gluten et toutes les céréales d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui va m'apporter du bien, qu'est-ce qui est vraiment dense en nutriments, qu'est-ce qui va me faire plaisir d'un point de vue gustatif, mais aussi d'un point de vue bah, micronutritionnel. Et vraiment de se focaliser là-dessus et de prendre des moments aussi. J'aime beaucoup faire la mise à la terre. Donc, quand j'ai l'occasion, je prends des pauses dans ma journée, je vais me mettre pieds nus dans mon jardin et je me mets un petit peu au soleil et je respire un peu, je décharge toute l'énergie et ces ions négatifs et ça fait aussi du bien. Donc, voilà. Et donc, sur ce, je pense que ce qui est clair, c'est qu'avec nos trois expériences personnelles, et nos expériences professionnelles, ben on avait envie de se regrouper à trois et je pense que on est plus fort quand on est ensemble. Et on avait vraiment envie de créer quelque chose qui nous ressemblait et qui nous permettait d'apporter tout ce qu'on a appris d'un point de vue personnel et professionnel dans un seul programme. On a voulu faire quelque chose qui se fasse en 6 semaines pour vraiment vous donner plus vous donner goût à cette approche et vous donner déjà cet espoir et puis pour que on vous donne un maximum d'outils et de clés pour vous mettre sur la bonne voie et pour commencer à entamer ce parcours, même s'il y a des personnes qui ont déjà commencé, c'est vraiment pour mettre sur les bonnes rails. Et on est vraiment prise de passion par ce projet-là. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre site et remplir le petit questionnaire d'inscription sur notre site internet. Voilà. Et puis bah, merci à Caroline et à Lana aussi.
Merci à toi, Lorraine.
Merci,
Caroline.
oui, c'était super.
Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement, nous serions ravis de vous accueillir dans notre programme de coaching de groupe dédié aux personnes vivant avec une spondylarthrite ankylosante. La prochaine session débutera à la mi-janvier 2025. Si vous écoutez cet épisode après cette date, sachez que d'autres sessions seront prévues dans les mois qui suivent. N'hésitez pas à vous informer sur les prochaines dates. Pendant 6 semaines, nous vous offrirons un soutien collectif et individuel, des outils concrets pour modifier durablement votre mode de vie et réduire vos symptômes. Le tout dans une atmosphère bienveillante et dynamique. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet spondywarriors.com ou contactez-nous directement. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesante.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.